bienvenue sur le podcast de Moodstep. Pour ce nouvel épisode, nous allons à la rencontre de Cécile Pompéi. J'ai rencontré Cécile, voilà de ça, 2 ans, chez moi. Et j'ai gardé un souvenir éblouissant de cette jeune femme dynamique qui, à ce moment-là, n'avait pas encore vraiment posé son activité. Mais ça y est, c'est fait. Et je pense que c'est le bon moment pour comprendre ce qu'elle fait et comment elle accompagne les individus dans leur transition professionnelle. Je suis Joanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur, un jeu de connaissances de soi où on explore particulièrement nos modes de fonctionnement, le mode de fonctionnement des autres et le mode de fonctionnement d'un groupe. Je fais ça avec des groupes d'en moyenne 150 personnes sur des durées de 2-3 heures. Et je suis heureuse de vous accueillir pour ce nouveau podcast. Retrouvons tout de suite Cécile.
Bonjour Cécile.
Bonjour Joanna, bon après-midi.
Merci, bienvenue sur ce podcast. Alors nous allons parler, je pensais que c'était un sujet qui était un peu aux frontières de ce que je fais dans ce podcast. On va parler de la transition professionnelle, mais comme on en parlait juste un peu avant pour comprendre le sujet, c'est vrai que la transition professionnelle, ça peut être aussi quelqu'un dans une équipe. Qui n'est pas forcément bien dans son job. Donc ça peut être à titre personnel, je ne suis pas bien dans mon job, et qu'est-ce que je fais à partir de là, ou comment je fais une transition et vers quoi, à qui je m'adresse, voilà. Mais ça peut être aussi à l'intérieur même d'un service ou d'une entreprise. Mais avant qu'on se lance sur le sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire quel a été un peu ton parcours, comment, et qu'est-ce que tu fais, et comment tu en es arrivée là?
Bien sûr. Alors, donc moi, je viens juste de rentrer en Europe. Donc moi, j'ai commencé ma carrière dans les pays émergents. Moi, je reviens de 10-12 ans entre... j'ai fait Europe de l'Est, puis Asie 5 ans, puis Afrique. En fait, moi, j'ai toujours eu envie de me lancer depuis assez tôt dans ma carrière sur le développement. Et plus précisément, l'entrepreneuriat social. Donc moi, j'étais attirée par des entreprises qui avaient un retour financier, mais aussi un impact social. C'était très important pour moi, ça me donnait du sens. C'était quelque chose auquel j'accordais beaucoup d'importance. Et finalement, le fil rouge, ça a été vraiment... moi, j'ai beaucoup avancé dans ma carrière en essayant des choses et en regardant ce qui me plaisait et en avançant comme ça. Et donc, j'ai beaucoup commencé l'entrepreneuriat social un peu au pif. Je me suis retrouvée un peu en microfinance, un peu en microfinance plus, ce qu'on appelait à l'époque comme ça, c'est-à-dire faire des prêts pour acheter des petits produits, notamment des lampes solaires. Et je me suis rendu compte, donc en Asie, et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait beaucoup, c'était le travail avec les micro-entrepreneurs et les formations et comment on les aide à grossir leur petit business avec des prêts et avec d'autres choses. Et puis, quand je suis allée au Kenya, toujours avec la même boîte, j'ai continué un peu plus à me concentrer sur les micro-entrepreneurs et à lâcher les autres parties de ce que je faisais qui m'intéressaient moins. Et puis ensuite, je suis arrivée en Afrique du Sud. Et là, je me suis beaucoup renseignée sur des entreprises sociales, encore une fois, qui me plaisaient. Et il y en a une qui m'a proposé de monter leur branche micro-franchise. Et la micro-franchise, c'est quoi? Donc, franchise, c'est un McDo, hein, c'est un business qu'on réplique. Et la micro-franchise, c'est la même chose, mais au niveau des micro-entrepreneurs. Pour une femme plutôt, enfin, moi je bossais beaucoup avec les femmes sur ce modèle-là, mais pour une femme ou un homme, donc qui est à un niveau qui est plus pauvre, et donc qui monte un petit truc. Moi ce que je dis toujours, c'est regarde, imagine une petite pièce et ça serait un petit salon de beauté, une petite école, une petite boulangerie. Et on les réplique comme une franchise, on la réplique. Et en fait, c'était vraiment intéressant parce que c'était, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est pas forcément le super entrepreneur, c'est la personne qui a envie. D'être un peu plus entrepreneuriale, mais qui n'arrive pas toute seule forcément. Et je me suis retrouvée comme ça à construire tout ce centre de micro-franchise. Alors, il y a toute la partie monter une entreprise sociale moi-même, etc. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'était aussi faire ce programme, et finalement, c'est la ligne rouge de tout ce que j'ai fait, faire ce programme de comment on design un programme éducatif, un programme d'apprentissage pour apprendre en... je ne sais pas, 3 jours, 1 an, 2 ans, à des gens être plus entrepreneuriaux. Et c'est ça que j'ai fait avec le centre de micro-franchise. Donc, ces femmes sud-africaines des townships, donc des bidonvilles sud-africains, avaient 2 ans pour apprendre comment monter une franchise. Donc, elles avaient des cours 1 jour par semaine et le reste, elles bossaient sur leur business elles-mêmes. Et comme ça, c'était un peu un espèce d'apprentissage.
Un incubateur, quoi.
Ouais, plus qu'un amateur, c'est comme ce programme d'apprentissage qu'on a dans certaines grandes écoles, de dire un jour en entreprise et 4 jours sur ma boîte, ou un truc comme ça. Et ça a très très bien marché, donc on a eu un award Ashoka, enfin on a eu plein de choses super. Et en fait, j'ai dû, pour des raisons personnelles, rentrer en Europe il y a à peu près 2-3 ans. Et en fait, finalement, la micro-franchise en Europe, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, je me suis posé pas mal de questions. Je ne me retrouvais plus trop dans l'entrepreneuriat social en Europe. C'était très différent du terrain. Et c'était beaucoup plus ONG qu'entreprise sociale. Et du coup, voilà, je me suis dit, non, ben, écoute, ça fait 8-10 ans que je fais de l'entrepreneuriat social. Je ne sais plus, j'avais des doutes. Et je me suis dit, mais finalement, le fil rouge de ma carrière, c'est peut-être pas l'entrepreneuriat social. C'est peut-être justement de designer ces programmes pour aider les gens à être plus entrepreneurs, plus acteurs de leur carrière, se mettre en action, leur passer mon énergie. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup fait de programmes similaires pour trouver un peu ma niche. Et aujourd'hui, je fais deux choses. D'un côté, j'ai monté un programme pour aider un peu des gens exactement comme moi, très internationaux et en transition de carrière. Donc voilà, une nana, ou d'ailleurs j'ai des hommes aussi, qui veut partir avec un peu une relocation géographique. Alors pas forcément, mais c'est comme ça que je retrouve un peu les curieux et les ouverts d'esprit et les touche-à-tout. Il y a un programme où je me dis, bah, je sais pas, je me retrouve à changer de ville et je me dis, bah, finalement, oui, j'ai réussi beaucoup dans ma carrière pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais là, à cause de ce déménagement, je me pose des questions et je veux changer. Et comment je fais? Donc ça, c'est la première chose. J'ai monté donc un programme de transition de carrière pour des particuliers. Et à côté de ça, je travaille aussi beaucoup avec des incubateurs, des coworking et des entreprises en disant, ben, est-ce que on peut monter justement un programme de 3 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an pour aider les gens à être plus acteurs de leur carrière. Et donc là, j'ai des programmes pour aider les gens à transitionner vers l'entrepreneuriat. Avec les entreprises, j'ai des programmes pour aider les gens à transitionner vers l'intrapreneuriat. Donc, c'est vraiment de la mise en action. C'est qu'est-ce que je fais avec les gens qui ne sont pas les super entrepreneurs, mais qui veulent être plus entrepreneurs, plus acteurs, mettre les gens en mouvement, quoi, les faire reprendre le contrôle. Donc voilà, donc j'ai les deux choses. J'ai mon petit programme à moi et puis j'ai ces programmes avec des gens qui me contractent. C'est bien, ça me fait faire des choses. Mon petit programme à moi reste encore assez petit et ça me permet d'avoir des plus gros budgets, de rêver plus grand, de designer des choses un peu folles. Voilà, j'ai les deux.
Et quel est ton constat en fait? Les gens qui viennent notamment dans ton programme, que tu as appelé EMUA, c'est ça?
Je l'ai
C'est
appelé
celui-là?
IMUA.
EMUA, ça se dit.
IMUA, ça c'est le nom pour les. Alors, ça c'est mon petit programme de transition de carrière pour les gens qui sont 30, 40 ans, un peu en crise du travail et très internationaux. J'appelle ça des global citizens, des citoyens un peu du monde, quoi. C'est des gens qui peuvent être de n'importe quelle nationalité d'ailleurs, mais qui ont une petite tendance à pas voir la frontière géographique comme une grosse frontière dans leur vie. Donc voilà, ils peuvent avoir déménagé. Souvent, ce sont des couples à deux nationalités, ou du moins, ils n'hésitent pas à changer de pays parce qu'ils veulent une vie un peu plus alignée avec ce qu'ils veulent faire. Voilà. Et donc,
Imua, tu me disais que c'était...
ah oui, c'est un mot hawaïen, j'ai adoré. C'est un mot hawaïen qui veut dire avancer avec force et courage. Je trouvais ça vraiment super, j'adore ces mots.
Quel est ton constat, les gens qui viennent dans tes ateliers ou workshops en anglais, les gens qui viennent là, donc c'est quoi? Comment on reconnaît qu'on a besoin d'un petit coup de boost? On est bloqué ou ils sont perdus par le nombre de possibilités? Voilà, quel est ton constat?
Ouais, c'est assez intéressant, je relisais encore, je relis souvent leurs interviews, parce que je les interviewe tout le temps, j'en ai interviewé à peu près plus de 100, et je le relis souvent pour me remettre dedans. En fait, justement, alors c'est intéressant, ils parlent d'un urge to change, donc un besoin de changement assez fort. Et ils savent pas forcément pourquoi, donc ça les perd un peu, parce que généralement, ils étaient bien dans leur carrière. Mais ils ont ce sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ce qui est assez intéressant pour revenir un peu à un besoin, si on regarde la pyramide de Maslow du travail, c'est presque comme s'ils avaient coché les cases de bah, c'est bon, la reconnaissance, c'est bon, l'estime, ok, l'appartenance, c'est bon. Et du coup, maintenant, ce qu'ils veulent finalement, c'est le dernier milestone, quoi. C'est vraiment de se dire bah, maintenant, je veux en plus adorer ce que je fais et que tout soit génial. C'est un peu ça. Non, mais c'est vrai. Mais c'est assez intéressant. Et du coup, ce qu'ils veulent, eh ben, ils veulent rêver grand. Ils veulent. Ce qu'ils sentent, c'est que. Alors, les deux, trois choses que j'entends beaucoup, c'est que il y a beaucoup de choses qui leur plaisent dans le travail, mais ils veulent maintenant en plus du sens. Donc ça, c'est pas mal les gens qui arrivent de boîtes un peu plus grosses, enfin surtout des grosses boîtes, qui me disent, écoute, c'est top. À la limite, j'adore mon secteur, j'adore mon job. Pourquoi pas, j'adore mon équipe, etc. Mais là, je voudrais en plus croire vraiment en ce que je fais. Donc il y a ça. Il y a aussi tous ceux qui veulent trouver. Alors, le work-life balance, c'est énorme. La qualité de vie,
Équilibre.
Ouais, la qualité de vie, le rapport vie-travail, alors ça, c'est quelque chose que j'entends énormément. Ils se disent, mais attends, c'est complètement bête. Alors ça, c'est surtout jeunes parents ou des gens qui se disent, j'ai bossé comme un dingue pendant 10 ans, pourquoi on me force à être au travail sur des horaires? Pourquoi je ne peux pas quelque chose un peu au milieu? Ou parfois, j'ai le droit de rester chez moi une matinée. Et tout ça, ça va aussi dans le sens d'une chose que j'entends beaucoup, la troisième chose et auquel j'avoue que je n'avais pas pensé, c'est le manque de créativité. Les gens se sentent bloqués en fait et ils disent, et ça c'est même dans des professions ou dans des personnalités pas forcément, quoi, hein, je ne parle pas de l'artiste, hein, qui disent, mais en fait je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai ce besoin de plus de créativité. Je leur dis, mais alors qu'est-ce que c'est plus de créativité? C'est, je sais pas, je me sens enfermée, j'ai envie d'avoir plus d'autonomie sur ce que je fais, de pouvoir inventer un peu des exercices, de pouvoir inventer. Je sais pas, il y a vraiment cette chose-là qui ressort beaucoup et qui a l'air d'être. Je sais pas, peut-être que le fil rouge dans tout ce que j'entends sur le manque de créativité, c'est peut-être plus d'autonomie sur ce qu'ils veulent créer ou comment le créer, qu'ils sont dans un carcan fermé et les gens se sentent enfermés. Je pense que c'est comme ça et qu'au final, ils se disent qu'avec un tout petit peu plus je sais pas si le mot c'est folie, je trouvais ça joli, mais un peu plus de créativité, de leur dire bah, vas-y, choisis tes moyens ou choisis ce que tu veux faire, ça les aiderait à pas faire toujours la même chose de façon répétitive. Ils ont vraiment des problèmes avec la répétition. Voilà, je pense que ça, c'est les trois constats un peu majeurs. Moi, ce que j'entends aussi beaucoup en sous-jacent, c'est que malgré eux, ils sentent une très, très grosse crise, finalement, ce n'est pas un énorme changement qu'ils cherchent. Il y en a certains, bien sûr, mais ça, c'est parce qu'ils ont un sentiment énorme où ils se disent « j'en peux plus ». Mais finalement, le changement, c'est parfois, et le plus souvent, un petit changement d'environnement. Donc c'est finalement qu'ils veulent un peu plus d'autonomie ou un truc un peu plus aligné avec eux qui pourrait être bah, moi je préfère bosser avec des gens ou pas. Ou alors moi je voudrais juste bosser 2 jours par semaine de où je veux ou décider comment je mets en place mes process. Ou donc c'est finalement je pense qu'il y a beaucoup de fois où c'est des petites choses ou alors je voudrais juste le contrôle sur mes projets. Donc c'est des petites choses. Alors bien sûr qu'ils se sentent, on entend beaucoup que les gens sont très mal, très mal, très mal, mais finalement j'ai l'impression que ce sont des plus petits changements que ce qu'on pense, qui peuvent faire l'affaire et que finalement, il y a beaucoup plus de gens qui sont pas si mal dans leur carrière, mais qui, à cause d'un problème d'environnement, pensent qu'il faut un changement radical, alors que pas forcément.
Alors justement, ces gens que tu rencontres et que tu interviews avant de faire les workshops, comment on s'y prend quand on est là? C'est-à-dire, toi, concrètement, comment tu les aides?
Ouais, alors ça, c'est intéressant parce que je pense que justement, c'est quelque chose qui n'est pas encore très connu, ou même moi je ne connais pas toutes les solutions. Alors je pense que, alors dans les problèmes que j'ai vus, moi ce que j'ai fait quand j'ai interviewé les 100 personnes, c'est que je leur ai demandé quels étaient leurs sentiments, quels étaient leurs problèmes, etc. Ce qui sortait beaucoup, beaucoup, 80% des gens se sentaient très seuls et ils voulaient rencontrer d'autres gens qui ressentent la même chose, ce besoin de transition, être mal. Et l'autre chose qui est ressortie de façon égale à un très fort pourcent, c'est qu'ils ne savaient pas par où commencer, ils manquaient de la structure. On ne leur avait jamais appris. Et ils ne savaient pas comment se structurer pour trouver une solution. Voilà, il y a d'autres choses, hein. Il y avait vraiment donc les constats que j'ai faits avant, etc. Et donc finalement, moi j'ai réfléchi par rapport à ce que moi je savais faire et ce que j'aime faire. Et je me suis dit, bah, moi j'aime beaucoup le groupe. Je pense que j'ai beaucoup plus un talent dans le groupe que forcément en one-on-one. Et quand j'ai entendu qu'ils se sentaient seuls et qu'ils avaient besoin de structure, structure aussi c'est quelque chose, je suis très structurée, je me suis dit, ben finalement, moi je pense qu'il peut y avoir une approche structurée à faire, un peu un programme qui matche tout le monde, où tout le monde en suivant ce programme pourrait trouver sa solution unique. Ce qui est différent, alors donc les autres solutions qui existent, c'est par exemple le coach en individuel. C'est surtout ça. Ou alors, il y a des programmes en coaching en groupe, je pense. J'en vois un ou deux à Paris, peut-être à Varab, dont on parle pas mal. Enfin, il y a quelques petites choses. Ça, c'est des solutions. Il y a aussi la solution de s'y trouver tout seul. Alors ça, j'en vois beaucoup passer là. Ça prend juste beaucoup plus de temps. C'est pas agréable, mais je pense qu'on peut s'en sortir aussi si on a la bonne démarche. Il y a lire les livres. Alors ça, j'en entends beaucoup parler, de lire des livres pour essayer de trouver sa voie. Les déclics, pareil, sont beaucoup plus longs parce qu'en fait, le livre ne vous challenge pas en échange et c'est beaucoup plus dur de se pousser tout seul.
Et
Donc
puis
voilà.
de voir ces zones d'ombre, ces zones. Il y a plein de choses de nous-mêmes qu'on ne voit pas. Le groupe aide à ça, non?
Exactement, et de se pousser. C'est vraiment ça, de se pousser. Il y a vraiment un truc de structure, de dire... Je vais pas assez loin si je suis tout seul. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disaient, je pense que si je le fais tout seul, je vais pas aller au bout de ce que je veux. Je vais pas y croire, je vais pas me pousser. Et puis aussi, la vie. La vie fait que ben, un jour, on est malade, un jour, on a ça, un jour, c'est la semaine des impôts, un jour, c'est la semaine de la fin de l'année, un jour, c'est la semaine... Non, mais c'est vrai, il y a toujours quelque chose. Et donc, finalement, il y avait ça aussi, où être tout seul, c'est pas évident. Enfin, ils sont en train... J'ai lu un super livre l'autre jour sur l'apprentissage, et il disait qu'en fait, il faut arrêter d'essayer de le faire tout seul. C'est pas du tout une faiblesse de le faire tout seul, c'est le seul moyen d'être à haut niveau. Et il disait ça par exemple pour les sportifs ou n'importe qui veut apprendre les échecs ou je ne sais pas quoi. Si vous voulez être très très fort dans un domaine, il vous faut un coach. Et c'est ça en fait l'idée, c'est d'avoir un groupe et quelqu'un qui vous pousse. Donc moi j'ai monté un petit programme comme ça où j'ai établi ma structure. Alors je l'ai beaucoup beaucoup préparé, mais une structure un peu... Alors, il y a une structure de la partie 1 qui est en 8 étapes. Ça, c'est vraiment la partie pour savoir ce qu'on veut faire. Et moi, je pense qu'avec ces 8 étapes, à la fin, on a eu une très bonne idée. Et la deuxième partie qui est tout aussi importante, c'est qu'une fois qu'on a eu des intuitions de ce qu'on voulait, il faut absolument, absolument, absolument les expérimenter. Et c'est là où souvent le coaching ou les groupes s'arrêtent. Et en fait, c'est très, très important d'expérimenter des choses et d'aller au-delà de ce qu'on avait imaginé seulement ou pensé. Et d'expérimenter et de réfléchir sur son expérimentation. Et là aussi, le groupe est très important. Donc, je donne un exemple. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent... Alors, j'ai deux exemples qu'on entend souvent. Le premier, c'est « je vais tout lâcher, monter un café ». Le deuxième, c'est « je vais tout lâcher et être prof ». Et ça, c'est des choses... Non, mais c'est génial. C'est des choses où on doit avoir un imaginaire très fort. On se dit que ça va être génial. Voilà. Donc, c'est les deux choses très fortes. Et donc, voilà. Donc, il y a pas mal de gens qui disent « Ouais, en fait, j'ai vraiment cette idée. Là, je veux absolument... Je pense que pour moi, c'est vraiment monter un café ou être prof. » Voilà. Et du coup, ils passent beaucoup de temps à faire une formation, un truc très long. Et ils se retrouvent le premier jour à le faire et ils se disent « Oh, j'aime pas. J'avais pas pensé. » Ou alors, c'est pas exactement ça. C'est « En fait, j'aime pas du tout les enfants. Il faut que je le fasse avec les adultes. » Mais du coup, c'est pas la même formation. Enfin bon, voilà, ça c'est le cas de prof. Et donc l'expérimentation et la réflexion, c'est aussi d'affiner un peu ce qu'on s'était dit, d'expérimenter, de se dire est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose une matinée pendant un mois, deux mois, trois mois pour voir. Et pour voir.
Mais avant d'expérimenter, comment tu identifies ce que tu as envie de faire puisqu'on a des projections qui sont fausses?
Ouais, absolument. Et ben, en fait, là, ce que je fais, c'est que... Donc ça, c'est les 8 premières sessions, c'est les 2 premiers mois, c'est la partie 1. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé ça en 8 étapes autour de quels sont finalement les blocs qu'il faut regarder quand on regarde sa carrière pro. Et je me dis, on l'a jamais fait. Et ben, je reprends tout à la base. Je dis, oublie ce que tu as fait avant, parce que c'est pas parce que tu étais bon en com que tu as envie de faire de la com toute ta vie. Oublie tout et on va repartir de la base. On va le faire une fois pour toutes, on va repartir. Et donc, dans les blocs, la première partie, bah, moi, je bosse avec des gens de 30 ans, donc c'est intéressant d'analyser ce qui les a fait se mouvoir dans le passé. Donc, je regarde beaucoup leur histoire, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a drivé au changement à chaque fois. Donc, je regarde leurs histoires, leurs compétences de base. Donc, les compétences, c'est quelque chose de technique qu'on sait faire. Hein, on regarde un peu leur histoire. Ensuite, je regarde la partie... Alors, je ne fais pas forcément d'ordre, mais ensuite, je regarde la partie talent. Donc là, c'est vraiment où est-ce que je suis bon. Où est-ce que je suis bon et quelle combinaison de talents j'ai envie d'améliorer pour en faire des forces. Qu'est-ce que j'aime faire. Donc, talent et qu'est-ce que j'aime dans mes talents et que je veux pousser. Donc, il y a ça. Ensuite, j'ai toute une partie sur quel est l'impact que je veux avoir. C'est une question très importante qu'on ne se pose jamais. Et finalement, quel est l'impact que je veux avoir. Qu'est-ce que c'est ma contribution. Et ce n'est pas une contribution, enfin, ce n'est pas quelque chose de final, c'est un peu ce que les gens appellent mon purpose, ma passion. Mais moi je dis, mais attendez, la passion ne tombe pas du ciel en vous disant « Waouh, la passion, t'a frappé !» Non, ce n'est pas comme ça. La passion, c'est... Enfin, la contribution, c'est de se dire ben, « je me commette, enfin, je me dédie à quelque chose pendant plusieurs années. » Et si j'ai envie de changer, j'ai envie de changer, mais décider quelle est sa contribution. Donc, une autre étape, c'est l'environnement.
Excuse-moi, d'expérience, cette histoire d'impact ou de contribution qu'on veut avoir pour le monde. Mm. Tout le monde a cette conscience-là, parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans des jobs sans vraiment se soucier de l'impact final de ce qu'on fait. Est-ce que c'est quelque chose dont les gens ont conscience?
Ouais, c'est une bonne question. Souvent, on n'en a pas... Alors, je parle un peu de la génération. Je ne sais pas trop sur la nouvelle génération.
Au passage, je suis désolée, je t'interromps, mais tu parles des gens de 30 ans parce que c'est ta génération, mais je crois que tu as peut-être une vocation à aller sur un public peut-être plus large qui... qui t'ouvrirait à de nouveaux horizons aussi, non?
Non, bien sûr, je regarde beaucoup les retraités, parce que je trouve que c'est le moment où justement ils peuvent complètement se lâcher et avoir ce moment de dire, attends, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire et maintenant, qu'est-ce que je veux faire?
Super,
Ça,
ouais.
génial. Les jeunes étudiants, j'en ai pas mal. On m'a demandé de parler dans quelques écoles. C'est ce que moi, je trouve plus dur, c'est peut-être moins ma population de cœur, parce que, bon, pour des raisons personnelles, et puis je pense que c'est un moment, c'est un âge où on a moins eu le temps de tester les choses et de se connaître, on est moins bien. Et moi, j'aime bien ce moment où on a quand même eu quelques réflexions, on s'est dit, ah ben j'ai quand même... Voilà, c'est très personnel, hein. Il faut toujours trouver tous sa niche. Et c'est vrai que à partir de 30 ans et tout ce qui est au-dessus, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a réfléchi un peu plus.
Ouais,
Mal en
mais
ce
en
moment.
revenant sur les retraités, c'est très intéressant. Bon, moi j'habite dans un endroit où il y a des retraités, hein. L'année dernière, je faisais même du bridge, donc c'est pour te dire, j'ai plein de
Ah,
potes retraités.
super, ouais. Bah, comme ma grand-mère, voilà.
Et c'est vrai, c'est flagrant quand tu pars en retraite, oui. Est-ce que voilà, tu fais des petites choses ou est-ce que tu as encore un rôle à jouer? Est-ce que et cette question de sens, elle est très forte, elle peut être très forte à ce moment-là et notamment dans ceux qui restent plein de vivacité et ceux qui peuvent aussi s'éteindre par manque de sens. Donc comment est-ce que tout le monde, est-ce que chacun de nous a envie d'avoir une... Alors, tu parles un peu en anglais, donc j'ai des mots en anglais qui viennent legacy. Qu'est-ce qu'ils ont envie de transmettre? C'est cet exercice de, voilà, quand tu seras mort et qu'on fera ton
Ben voilà,
épitaphe.
c'est un de ces exercices que je fais pendant cette session. Non, c'est une vraiment bonne question. Il y a plusieurs choses qui m'influencent. La première chose sur les retraités, par exemple, j'ai commencé à interviewer pas mal de retraités. Les retraités, ils n'ont pas les premières années, si je fais une généralité, attention, hein. Parce que les premières années, en fait, justement, on les a trop poussés. Là, ils disent, attends, je veux juste être égoïste et m'éclater. Mais par contre, après, ils l'ont. Parce qu'il y a ce truc, je sais pas, ils l'ont. Ça, je l'ai beaucoup eu. Quand on est plus jeune, sur des populations de 30 ans, je dirais 35 ans, un truc comme ça, alors en fait, ce qui m'influence pas mal, c'est tout ce courant. Alors, j'ai lu bien évidemment Viktor Frankl, Man's Search for Meaning. Alors, je ne sais pas quel est le titre en français, mais L'homme à l'enquête de sens, un truc comme ça. Et donc, Viktor Frankl, qui est un psychiatre autrichien qui a fait les camps de concentration, il dit que, enfin lui, il a monté l'école de logothérapie, donc logos, thérapie par le sens, où justement il dit que, en fait, le sens, c'est une des choses très importantes pour continuer à vivre. Et donc lui, quand il regardait les camps de concentration et les gens qui s'en étaient sortis versus pas sortis, à des qualités physiques égales, ce que finalement, ce qu'il dit, c'est que les gens qui trouvent du sens et qui savent se donner du sens s'en sortent. Et donc finalement, je pense qu'on peut vivre et que on peut vivre sans avoir de sens nécessairement tout de suite. Et deuxième chose, le sens ne vient pas forcément que par le travail. Donc Viktor Frankl parle aussi de son rôle dans la famille, de son rôle face à une maladie, etc. Mais que moi, je pense que le sens par le travail peut être une des choses qui participe à juste être tout simplement plus heureux. Et qui peut aider à dire, bah, attendez, si le sens est quelque chose qui nous rend heureux, bah, le sens par le travail, mais génial, enfin, tant mieux.
Mais tu as dit se donner du sens. Ça veut dire qu'on peut créer ça. Par exemple, on peut vivre sans. Voilà, on vit sa vie un peu. Des fois, par réaction, il y a des événements où on a pris une voie et puis on continue. Mais est-ce qu'il y a des questions clés à se poser pour justement accéder à ce sens dans notre vie?
Ben c'est justement ce que j'essayais de dire, mais c'est une session qu'on va parler. Ce que j'essayais de dire, c'est que justement, en fait, le sens, c'est une décision, c'est un commitment. C'est ça que je disais. C'est vraiment c'est prendre une décision sur quel sujet je veux m'investir un peu, sur quel sujet je veux me donner du sens, me spécialiser. C'est vraiment très personnel. Donc, c'est un engagement. Voilà, commitment, c'est engagement. C'est un engagement de se dire, voilà. Et donc, finalement, oui, les questions. Alors, moi, je bosse avec plusieurs. Alors, ce qui est intéressant sur cette session, c'est que c'est une des rares sessions de tout mon programme où j'ai pas une question qui débloque beaucoup, beaucoup de choses. J'en ai plusieurs. Et je commence toujours la session, c'est drôle, parce que mon groupe l'a demain soir. Je commence justement toujours cette session par dire, bah, écoutez, j'ai pas mal de questions. Et le jeu de cette session, c'est de trouver la session qui débloque pour vous. Et c'est la seule session où j'ai pas mes deux, trois questions phares. J'en ai beaucoup plus. Et chacun résonne avec des questions très différentes. Donc, il y a la question, évidemment, que tu as mentionnée de l'enterrement, de se dire, bah, si je meurs, qu'est-ce que je veux avoir, qu'est-ce que je veux laisser, quoi. Donc, c'est important. Il y a toute une question que moi, j'aime bien me poser autour de si vous gagnez un prix, ça serait pourquoi? Il y a deux questions, mais toi qui bosses avec, pas mal avec les événements TED, si je donnais un TED Talk, ça serait sur quoi? Des petites questions comme ça, tout simplement.
Oui.
Et ça peut être des questions aussi plus profondes. Alors là, j'ai rajouté des questions récemment inspirées par toutes mes lectures, de dire aussi... moi, j'ai la génération des jeunes qui commencent à avoir des enfants, donc quel est le monde que je veux créer pour mes enfants? Qu'est-ce que je veux laisser au monde dont mes enfants seraient fiers de moi? Quels étaient mes besoins étant enfant qui n'ont pas été respectés, que je veux donc amener au monde? Il y a aussi des choses autour des parents. Quelles sont les choses dont mes parents avaient besoin finalement et ont projeté beaucoup sur moi? Parce que on a beau vouloir être des êtres absolument indépendants, finalement, sans entrer dans la psychologie que je ne maîtrise absolument pas, mais finalement, il y a pas mal de choses qui viennent de là. Donc, trouver du sens parce que finalement, on le fait pour eux, ou etc., c'est pas négatif du tout, hein. Donc, il y a ces questions-là. Enfin, il y a pas mal de choses. Qu'est-ce que c'est un mondial? Qu'est-ce qui m'agace dans le monde? Moi, je pose toujours ces questions-là à mes amis. Mes amis m'appellent. Alors, c'est normal, on s'appelle entre copines des fois pour se plaindre de choses. Bon, voilà, on s'appelle. Et là, j'en ai marre. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Si ça t'énerve, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et donc, il y a plein
de... C'est un indice, en fait, ce qui nous énerve. Parce que ça vient taper sur ce à quoi on aspire.
Exactement. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, et vraiment, ça peut être par rapport à nos valeurs, ça peut être à nos valeurs de base, à nos principes fondamentaux. Mais par contre, et c'est là, si on mixe une valeur qui n'est pas respectée, donc par exemple, je ne sais pas, disons que, qu'est-ce qui peut m'énerver la solitude. Alors, j'entends beaucoup ça en ce moment aussi, les gens disent, mais attendez, on est très seul au travail, on est très seul dans nos vies, etc. Ok, est-ce que c'est quelque chose auquel tu as envie de contribuer de façon consciente? Et donc, c'est ça la question, c'est des choses qui m'énervent, des problèmes que j'ai, des choses que je n'ai pas eues, etc. Et sur quoi je décide consciemment, moi j'aime beaucoup cette responsabilisation, sur quoi je décide de m'engager et du coup de contribuer. Et donc, c'est un mix de ces choses-là. Ben, je prends une décision consciente et je m'engage sur un truc. Et si dans 3 ans, je me réalise que ce n'est pas un sujet qui me plaît, ben, je changerai, ce n'est pas grave, ou j'affinerai. Mais moi, j'aime bien ce côté de dire... Arrêtez, prenez le contrôle. Tu peux complètement décider de t'engager sur un truc. Arrêtons d'attendre que les choses nous viennent, finalement.
Et ça, c'est... Mais quand je repense à ton parcours, même si tu as fait des choses différentes, en effet, il y avait un fil rouge que tu as réussi à identifier. Est-ce que tu vois ça chez d'autres? C'est-à-dire que quand on prend tout ce qu'ils ont fait, même si c'est très hétéroclite, quand on prend tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, on retrouve... une quête de la même chose.
Ouais, souvent. Moi, je retrouve souvent ça. Je le vois beaucoup. Et finalement, c'est ça qui est drôle, tu vois, pour pousser la notion de sens. C'est que finalement, on a l'impression qu'un purpose... Alors, je sais, je ne retrouve plus mes mots en français, mais on a l'impression que ce truc de sens doit être quelque chose de très gros. Alors donc, quand je commence le sens, tout le monde me dit « Ah ouais, mais est-ce que ça doit être la pauvreté, le sauver ?» Alors, et puis, hein, voilà,
oui, c'est énorme.
Très biaisé. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je suis partie faire l'entrepreneuriat social en Inde, aller sauver le monde. Enfin, parce que c'est les biais qu'on a, c'est les stéréotypes qu'on a. Et du coup, moi, la notion, cette session sur le sens, je leur dis beaucoup « Attendez, il y a quelque chose en vous qui vous drive. Et si c'est rendre les gens un peu plus heureux, connecter les gens, rendre beau, rendre... je sais pas, rendre efficace. J'ai eu récemment, moi j'ai envie que ça soit utile. J'aime beaucoup rendre les choses utiles. Ben, on a l'impression que c'est des petites choses, mais c'est énorme. Et donc finalement, tu vois, le fil rouge, eh ben, souvent c'est quelque chose comme ça d'assez profond qui est justement ce sens. Et moi je leur dis, mais finalement c'est chouette. T'as un vrai sens là-dedans. Et à toi de décider comment tu veux contribuer à ça et te l'apporter. Mais donc finalement, pour moi, le sens, c'est quelque chose comme ça. De très rendre clair, donner de l'information. Donc, je les encourage à la fin à trouver un verbe d'action. Donc, ça peut être communiquer quelque chose de complexe en plus simple pour que les gens comprennent, que je les touche. Ça peut être quelque chose comme ça que j'ai eu récemment. Ça peut être, je ne sais pas moi, faire comprendre aux gens. Ouais, voilà, tout ce que les petits mots que je t'ai dit, connecter. Moi, je pense très fortement que c'est connecter pour mettre les gens en action. C'est bizarre comme sens, mais finalement, c'est génial. Non, mais c'est vrai.
Mais, non, mais c'est très clair. Donc ça, c'est ton... Ça, c'est ton motto, connecter pour mettre les gens en action. C'est le tien?
Oui, c'est un truc très fort de groupe. Donc je pense que j'ai vraiment... Mettre les gens ensemble, pour les faire avancer dans leur vie.
Ouais, on sent, hein. Et donc, une fois qu'on a identifié le sens, qu'il y a eu ce travail de fait, notamment sur les
Ouais.
talents, quelles sont les étapes d'après? Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, je le dis au
Non,
passage.
non, non. Bah alors, les étapes d'après, c'est l'environnement. Donc, alors, j'appelle ça dans quel environnement je performe. Donc, comprendre quelle est sa zone de force. Donc, là, on regarde beaucoup les valeurs, de quoi j'ai besoin pour performer. Donc, là, il y a beaucoup de choses autour, grande entreprise, petite entreprise, très autonome, etc. Et ça, c'est très bien aussi dans une entreprise qui sache le dire à leur manager. Donc, ça, à tous les niveaux, il faut se poser la question de dans quel environnement je performe le mieux. Ensuite, on leur fait un récap, enfin, je leur fais un récap de tout et on met ça, toutes ces sessions-là, on les met sur un, moi j'appelle ça un canvas, enfin, c'est un
Ouais,
canevas, quoi.
Canva, ouais.
Comme ça, tout est mis là. Alors, ça ne rend pas forcément un truc clair, mais au moins, tout est dessus. Une fois qu'on a fait ça, j'ai toute une session sur quelles sont maintenant intuitivement mes intuitions. Du coup, je me répète, mes intuitions. Et ensuite, je leur fais une ou deux sessions de, eh ben, du coup, maintenant, quelle est ma méthodo pour avancer et expérimenter? Comme ça, au cas où ils ne veulent pas faire la partie 2 du programme, ils ont la méthodo. Ils sont prêts. Donc finalement, ce qui se passe, c'est qu'à partir de la session 6, ils ont des intuitions très fortes. Alors moi, j'avais très peur que quelqu'un, surtout, ne trouve pas ce qu'il voulait faire. J'ai jamais ça. En fait, les gens ont une magie entre eux, en eux, pardon, en eux et entre eux, bien sûr, et ils trouvent. Et ils savent en fait ce qu'ils veulent faire. C'est juste qu'ils n'osent pas. Et une fois qu'il y a vraiment ça, ils trouvent tous, absolument, ils ont tous, moi je leur fais trouver entre 3 et 5 intuitions. Ils en ont tous 3 ou 5 dont ils sont très très contents et ils sont très sûrs. Et après ça, on teste, on affine. Donc, je leur donne la méthodo et ils sont prêts à se lancer. Et ceux qui veulent rester avec le groupe pour la partie 2, et ben dans ce cas-là, on reste. Et là, entre les sessions de réflexion, entre les sessions, enfin, eux-mêmes expérimentent de leur vie et on en réfléchit avec le groupe. Moi, je leur pose plein de questions pour les pousser. Je leur fais faire des projets où ils présentent devant les autres. Ça les encourage à se mettre en action. Ça les encourage à faire des trucs un peu créatifs et fous. Je leur fais faire des sessions, on a des petites masterclass, et bah, comment je me pitche pendant ma transition? Bah, tiens donc, je fais venir un expert, ou alors nous, on brainstorm ensemble sur ce problème que vous rencontrez tous, etc. Donc voilà. Donc au total, ça peut être 2 mois ou 6 mois le programme, c'est à eux de décider.
Ouais, mais la force du groupe, c'est vraiment un pouvoir qu'on n'exploite pas assez dans notre société. Je pense, je regarde ici, c'est vrai que la génération de nos parents, eh ben, c'est bête, mais il y avait l'église. Et il y avait des communautés fortes. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il faut peut-être reconstruire sans aller dans des idéologies, mais reconstruire ce pouvoir de l'accompagnement par le groupe, c'est
Anne, c'est
puissant.
magique. Et en fait, ça m'a. Moi, je l'ai fait un peu parce que c'était un peu mon intuition très forte. J'ai toujours été groupe. Moi, j'ai envie de prendre des cours de yoga, je me crée un groupe. Alors, forcément, j'ai toujours été très, très groupe. J'ai créé des groupes de tout dans ma vie, de book club, le machin, le truc. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que quand j'ai commencé à monter le programme, je pensais que ma force, ça serait d'avoir tellement lu sur le sujet, d'être tellement passionnée par le sujet, d'amener du contenu. Et en fait, j'ai découvert ma vraie force, c'est de savoir et de, du coup, bosser beaucoup dessus maintenant, comment créer une magie dans le groupe, entre les gens, comment les connecter, comment faire qu'ils se connaissent mieux, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils s'aident. Et finalement, de devenir cette personne invisible qui fait qu'on crée une unité d'équipe incroyable et on en fait une équipe folle. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, c'est ce qui marche le mieux. Pour moi, c'est génial. Et ça me donne une énergie incroyable. J'adore le groupe, quoi. Donc voilà.
Et tu penses que tu mets quel talent en route pour créer cette cohésion de groupe?
C'est une bonne question. Je me suis posé la question. Je pense que je le fais très intuitivement et je me suis dit, mince, je pense que c'est intuitif, mais j'aimerais bien y réfléchir pour m'améliorer.
Non, parce que comme c'est un talent, c'est normal que tu le vois pas vraiment et que tu
Ouais,
n'arrives pas
ouais,
vraiment à mettre des mots dessus. Mais ce serait intéressant de voir ce que tu
Ah,
utilises
ben bien
pour créer
sûr. Non,
ça.
mais bien sûr. Je pense que j'ai réfléchi. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est de leur amener une structure. Tout simplement, juste de leur mettre la structure. Et ça, c'est la première chose. Avec de l'énergie dedans. Et finalement, ça aide les gens à dire c'est bon, je peux lâcher mon truc parce que là, il y a quelqu'un qui me dit ce qu'on va faire. Donc ça les aide. La deuxième chose, je pense qu'un des talents, c'est de savoir connecter les gens, de toujours au début de leur montrer, de dire ah ben bah, t'as vu, elle aussi elle fait ça, de leur montrer les points communs, de leur faire, de leur voir leurs faiblesses en commun aussi, c'est magique ça, ils se sentent beaucoup plus protégés, de savoir, de leur mettre une petite impulsion de départ assez discrète mais qui finalement est très forte, de leur dire bah, tiens, dis un truc positif à l'autre, ou alors tiens, tu devrais lui parler de ça. Des toutes petites impulsions qui peut-être se voient même pas, mais qui finalement sont très fortes. J'ai commencé à beaucoup faire cet exercice de dire des choses positives, finir les sessions en disant on a le droit de dire quelque chose de positif ou un merci. Oh, la magie! Parce que finalement, non mais on se dit, le monde est fou, on se dit plus jamais des choses positives.
C'est dingue, hein?
Et les gens ne le savent pas. Et du coup, là, ils se mettent à se dire des choses parce qu'on leur donne la permission. Ils disent, oh, et franchement, oh là là, tu m'as impressionnée, t'es hyper courageuse. Et alors, la fille en face ou le mec en face, il dit, ah bon, mais je me sens complètement perdue. Mais pas du tout, mais t'entends ton parcours, c'est incroyable. Et là,
Ouais.
c'est un souffle incroyable. Et quand les gens se mettent à dire des choses positives, après, ils le font tout seuls, hein, voilà. Et là, c'est génial. Et là, ils s'encouragent. Et là, ça devient, j'appelle ça, alors j'adore, j'appelle ça le squat Beyoncé. Il faut avoir ce
Le
petit.
quoi?
Le squad, donc le squad c'est un peu les
Ah,
gros
le
squats,
squad, un squad,
je vais
ouais.
dire, et en français ça rime, alors ça c'est génial. J'en dis leur squad Beyoncé, c'est vous arrivez, vous êtes déprimé et vous sortez, vous vous sentez comme Beyoncé après avoir vu votre équipe, quoi. Et c'est ça, et je leur dis, tu ressors, t'arrives, t'es là, oh, les mecs au travail, c'est pas génial en ce moment, etc. Et tu sors et t'es là, je vais faire un truc incroyable, enfin, c'est ça drôle. Il faut que tout le monde ait ces petits squats Beyoncé autour de soi, les gens qui nous aident, et donc voilà, et donc il y a des petits talents comme ça de les faire. Se connecter ensemble et de leur montrer que c'est OK de dire des choses positives, que c'est OK d'être vulnérable, que personne ne va nous faire du mal quand on est vulnérable, qu'on est fort quand on est vulnérable. Donc c'est ces petites mains invisibles qui montrent ces choses-là et qui créent. C'est aussi les mettre en position d'acteur, de leur dire, attendez, vous allez gagner autant que vous recevez, à vous de faire, à vous de vous encourager, à vous de leverager ça. Et j'ai remarqué par exemple que la différence entre quand je leur dis ça et quand je leur dis pas, quand je leur dis, ils prennent le contrôle. Il y a ça. Enfin, il y a plein de choses. C'est des petites choses comme ça que je commence moi maintenant à voir et que du coup j'essaye de, bien sûr, de bosser encore plus.
Eh bien, que d'énergie, que d'énergie.
Ouais.
Je te propose de passer au questionnaire qui est commun à toutes les interviews. Avec la
Ok.
première question, sauf si vraiment tu as quelque chose de très important à rajouter, qu'on aurait
Non,
oublié de
très
dire,
très
c'est
bien.
bon. Ok. Alors la première question, est-ce que tu as eu un échec dans ta vie personnelle ou professionnelle qui t'a particulièrement fait avancer en termes d'apprentissage?
Bah, comme tout le monde, j'en ai eu beaucoup, on n'en parle pas assez. Je pense qu'il y en a un qui m'a beaucoup fait avancer. Quand je suis rentrée en Europe, j'avais, donc entrepreneur social, j'étais sur le terrain pour des entreprises sociales relativement petites, enfin on parle du 100, 200 personnes. Hein. Et quand je suis rentrée, je travaillais pour une énorme boîte pour créer leur fondation avec un directeur. Et en fait, c'est un peu le job rêvé quand on est entrepreneur social à faire du terrain. On se dit, si je rentre en Europe, je crée une fondation, finalement j'ai un salaire incroyable, je suis en Europe, j'ai un tout petit peu plus de stabilité. Bon, c'est un peu le job rêvé. Et en fait, je me suis complètement plantée. Alors, j'ai eu des raisons perso aussi qui n'étaient pas forcément, qui ne m'ont pas aidé dans le truc, mais en fait, c'était très dur parce que j'aurais jamais pensé pouvoir pas être bonne dedans. Et ça m'a fait avancer parce que j'ai appris ce truc de, en fait, il n'y a pas, alors je l'ai toujours en anglais, mais je vais vous le faire en français. Il y a pas de fit, il y a personne qui est bon partout. Tout est une question de fit. Et le fit en anglais, ça veut dire où est-ce que moi je colle le mieux? C'est quoi ma partie du puzzle où j'entre naturellement? Et ça m'a fait beaucoup de mal parce que je me dis, mais moi échouer dans ce truc, mais pourquoi? Mais je me sentais mal, quoi. Et finalement, non, c'est de se dire, bah, il n'y a personne qui est bon partout, partout, partout. Et on a ce mythe du mec qui est génial ou de la nana qui est géniale et qui du coup va être bon partout. Ça n'existe pas. Et du moment où on a réalisé ça, on est vachement mieux. Et c'était aussi un tellement gros échec que ça m'a fait beaucoup avancer en termes de vie pro-perso et apprendre, je fais toujours la blague, je dis en fait, il faut apprendre qu'on ne va pas mourir. Et donc quand tout s'effondre, il faut apprendre qu'on ne va pas mourir. Et donc moi, tout s'est effondré, j'ai appris, bon, finalement, tout s'effondre, mais je ne vais pas mourir. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait avancer sur ces questions-là, et aussi de se dire ben, finalement où est-ce que moi je vais? Et voilà, et pouvoir se poser des questions plus grosses et de ne pas rester dans le programme social si c'est pas vraiment ça, et d'aller au bout de mes rêves. Ça m'a challengé jusqu'à ce que j'y aille. Donc voilà, mais c'était dur. Je pense qu'on ne parle pas assez des échecs et que chacun a autant d'échecs que de succès, il faut en parler.
Et donc dans ce job, dans cette fondation, il y avait de l'accompagnement ou pas?
Sur ça, pas du tout, zéro.
Non, c'est-à-dire toi qui accompagnais des gens, parce que quand on découvre un peu ton profil, et je te connais pas bien, mais on voit qu'en effet, cette composante-là, tu le disais toi-même, c'est ton fil rouge. Est-ce que maintenant que tu connais mieux, que tu as vu et que tu as appris de tes erreurs, si on te reproposait ce job, est-ce que tu penses que tu pourrais voir tout de suite, et si c'était un autre travail, que ça ne correspond pas à ce qui te, justement, met en enthousiasme et utilise toute cette énergie que tu as en toi.
Bien sûr. Mais en fait, je le savais. Par exemple, je savais que je ne voulais pas bosser dans des organisations comme la World Bank ou les UN, mais je n'avais pas compris que c'était aussi les grosses boîtes ou des choses assez politiques qui, du coup, ne sont pas alignées. Donc, bien sûr, et le but du programme, de mon programme, c'est de faire en sorte que les gens se connaissent assez pour s'aider à se prendre ces décisions. Donc, absolument. Et quand on est encore fragile, il faut que le groupe soit là pour le faire, pour dire. Moi, j'en ai un récemment dans un groupe, un mec génial qui nous a dit « Oui, mais moi, je me pose la question de l'OCDE. » Et j'étais ravie parce que tout le groupe lui a dit « Non, ne le fais pas. On te connaît, tu te connais. Tu te connais, ose, on est avec toi, t'inquiète. » Et c'est ça. Donc, moi, aujourd'hui, jamais que j'accepterai ce job, jamais. Alors, il y a toujours ce petit pincement de dire « Oh, j'aimerais être bonne partout. » On aimerait tous être bon partout, mais je ne le ferai pas. Il faut être absolument très clair. Et c'est positif de ne pas être bon partout.
Ok, deuxième question. Est-ce qu'il y a une technique ou un outil qui t'a particulièrement fait avancer, encore une fois, ou appris ? Je sais que tu lis beaucoup, donc tu dois connaître pas mal de techniques.
Ouais, mais alors encore une fois, je suis très bien dans mon truc. Je pense que je suis très gens, moi. Je suis très people. Je pense que les gens, c'est important. D'avoir des gens qui nous aident à réfléchir et à nous poser les questions, à nous aider à ne pas nous mentir à nous-mêmes. Donc, plus qu'un outil, je pense que d'avoir des amis intelligents, des amis, alors je sais pas si ça veut dire l'intelligence, mais des amis qui nous challenge, c'est très important. Ouais. Ouais, qui nous pose des vraies questions, les questions qu'on n'ose pas se poser. On les a dans notre ventre, mais quand même, on n'ose pas les regarder. Et je pense que c'est ça. Parce que finalement, c'est juste poser les bonnes questions et de se dire, bon, allez, je ne peux pas mentir. Allez, je ne peux pas le prendre, ce truc. Je le sais. Je le sais. Ou alors dire, mais enfin, tu vois bien que tu fais ça pour les mauvaises raisons. Enfin, c'est important d'avoir des gens qui ont une intelligence émotionnelle autour de nous. Peut-être c'est plus ça de pouvoir poser. Donc, moi, je dirais que c'est beaucoup ça. Parce que le livre ne nous challenge, enfin, il peut nous challenger sur des pensées, ça nous aide à avancer, mais oui, il y a des choses qui me font évoluer souvent, mais je pense qu'il y a des gens qui nous poussent au-delà de ça, qui nous disent, hé, te mens pas, je suis là, ça va aller. C'est ça. Non, mais vraiment, je crois que ça, c'est l'outil ultime.
Ok. Troisième question, quelle est, selon toi, et on n'a pas trop abordé la question du management, parce qu'on n'avait plus trop de temps, mais on revient au management, et quelle est, selon toi, la qualité primordiale à développer pour être un bon manager ?
C'est tellement important. Alors ça, j'ai appris ça de ma mentor quand j'étais en Afrique du Sud, qui est une nana qui est incroyable, et qui, j'étais pas très bonne, je pensais, je lui demandais, j'ai envie de m'améliorer en tant que manager, etc. Et elle m'a fait faire un test de force, qui est le test du centre Gallup Center, qui est génial.
Ah, the Strength Finder.
Voilà, the Strength Finder, exactement, que j'utilise beaucoup.
Je travaille avec,
ouais. Ah ouais, absolument génial. Et donc en fait, ouais, moi aussi, je trouve que c'est très bien, je le relisais ce week-end, d'ailleurs c'est drôle comme quoi. Et en fait, elle m'a fait faire ça, ensuite elle m'a fait s'asseoir, comprendre ce que j'avais, comprendre comment ça marche, comprendre qu'un talent, c'est les combinaisons de talents. Et une fois que j'ai fait ça, ensuite elle m'a dit, maintenant, tu vois, c'est ça être bonne manager, Cécile, c'est comprendre les talents et pourquoi pas les faiblesses des gens de ton équipe. C'est ça un vrai manager, de quoi ils ont besoin et en fait, comment tu t'adaptes à eux. Un manager, son seul job, c'est de s'adapter aux gens dans son équipe et les faire atteindre leur potentiel. Et du coup, et c'est un peu ça le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que finalement, être manager, ça demande une grande intelligence émotionnelle, une grande empathie. Je ne sais pas jusqu'à quel point, ça c'est des questions clés, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut apprendre ça si on n'a pas un petit talent là-dessus. Donc tout le monde ne devrait pas être manager, c'est pas grave. Mais donc c'est vraiment de comprendre les gens, avoir des outils si on a besoin. Donc moi, si j'étais un manager à nouveau sur une équipe de 20, ben, je leur ferais faire un Strength Finder. Et je lirais ça avec eux, j'essaie de comprendre de quoi ils ont besoin. Et donc ensuite, elle m'avait aidé à comprendre les talents des gens dans mon équipe et à dire, et elle avait bossé avec moi. Et donc je me rappelle, elle m'a dit, bah, tu vois, cette fille-là, Jessica, elle a besoin que, elle, tu vois, les big picture, il faut que tu lui donnes le big picture parce que sinon, elle va y arriver. Elle m'a dit, tu vois, par exemple, lui, au contraire, Nils, lui, il a besoin que tu sois très, très opérationnel avec lui. Et donc, un manager, c'est quelqu'un qui a un talent des gens. Et elle était comme ça, donc j'ai beaucoup appris d'elle. Elle était donc CEO de la boîte, elle avait bossé pour un des plus gros retailers, un des plus gros, supermarchés, en gros, en Afrique du Sud. Elle était DAF, et donc elle avait managé une équipe très nombreuse. Et elle me disait, tu vois, je voyais en elle, elle voyait les gens comme plein de notes de musique, et elle, son job, C'était de les faire jouer la note parfaite pour avoir l'harmonie. Et son seul job, c'était comment je fais en sorte que mes gens atteignent leur plein potentiel. Comment je fais en sorte qu'ils performent mieux? Qu'est-ce que je peux leur donner? Et je m'adapte. Et ça, c'est...
Tu
Ça
vois
pour moi,
même plus me faire jubiler à l'intérieur parce
Ah,
que
bah, tant mieux.
c'est
Allez.
vrai qu'avec mon job et avec ce que je fais, je suis tellement concentrée là-dessus
Ah, bah oui, c'est
que
ça.
de l'entendre dit comme ça fait du bien. Mais bon.
Et on n'a pas préparé, on n'a pas préparé.
Génial. Est-ce que il y a un livre que tu conseillerais à la lecture qui t'a particulièrement intéressé dernièrement ou il n'y a pas
Alors, je
longtemps?
lis un livre tous les 2-3 jours. Donc là, ça va être dur
D'accord.
de faire un tri. Récemment, ben, Viktor Frankl, je pense qu'il y a une lecture intéressante. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé sur le sens, mais pas du tout abstrait. Il y a un livre que j'ai lu l'année dernière de Sébastien Younger, donc Junger, qui s'appelle Tribes. Alors, tribus, je l'ai lu en anglais, Tribes. Et en fait, qui parle, lui, c'est un vétéran de guerre. Et il parle beaucoup de la comparaison entre la société moderne et la guerre. C'est hyper facile à lire, c'est court et c'est fascinant sur les communautés. Et il dit, c'est les théories de la motivation humaine. Il dit beaucoup, bah regardez, pour être motivé, l'être humain a besoin d'être connecté, authentique, autonome et avoir du sens. En gros, hein, je la fais très rapide. Et il dit finalement, c'est pour ça qu'en guerre, on est peut-être plus heureux bizarrement que dans notre société moderne. Donc il parle de la guerre, qu'est-ce qui se passe pendant la guerre. Finalement, c'est vrai qu'on est authentique en temps de guerre parce qu'on ne peut plus se cacher. On est très connecté parce qu'on a besoin d'être ensemble pour vivre. On a besoin de choses comme ça. Et c'est ce que Daniel Pink dit beaucoup aussi. Il y a des autres livres qui sont intéressants. Daniel Pink, il écrit beaucoup sur ça. Ou Cal Newport, il a écrit So Good That They Cannot Ignore You. Tout ça, c'est des livres très intéressants sur ces théories-là. Et il montre que dans la société moderne, on va au-delà de ça. Et du coup, enfin, on va contre ça, pardon. Et du coup, c'est pour ça qu'on est malheureux, parce qu'on n'a plus de sens. Alors, on ne comprend pas pourquoi on fait les choses et que l'être humain a besoin de ça. On n'est plus connecté du tout. Il dit, on est tellement riche aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais on peut passer une vie, on ne dépend pas des autres pour vivre. Donc, on peut passer des journées sans parler à personne. C'est d'un triste. Et c'est ce qui se passe dans les grosses villes. Les gens sont, ils n'ont plus besoin de l'un de l'autre. Donc, c'est triste. Il y a aussi
Quoi,
au-delà.
ils croient qu'ils ont plus besoin l'un de l'autre.
Oui, ah non, c'est ce que je dis. Moi, je suis pour les.
L'expérience prouve le contraire.
Exactement. Et je ne sais pas si tout le monde s'en rend encore compte. On discutait ça ce week-end. Je ne me rappelle plus pourquoi. Oui, parce qu'on parlait beaucoup des choses en ligne, qu'on peut tout faire en ligne. Et je discutais donc avec mon copain qui disait oui, mais regarde, les gens ont besoin que ça aille plus vite. On est dans les grosses villes, on n'a pas le temps. Ah non, on parlait des caisses de supermarché. Comme quoi, c'est beaucoup mieux de plus avoir de personnes. Et je lui disais mais c'est fou, maintenant on va avoir des robots dans les supermarchés qui nous disent où trouver notre boîte de champignons. Je lui dis, mais attends, c'est la tristesse. Moi, j'ai envie d'aller voir la nana dans le supermarché, lui dire où est la boîte de champignons. Ah, c'est marrant. Ah, c'est sympa, c'est à côté de la farine. J'ai envie de discuter une minute. Et je fais les petites mamies aussi, et les petites jeunes aussi, et tout le monde aussi. Et donc, mais les gens pensent qu'ils ont besoin d'aller plus vite et d'être plus productifs. Et je pense qu'on n'est pas du tout clair sur ce dont on a besoin pour être heureux. Ça, c'est une absurdité totale. Ah, mais c'est une conviction très forte. Donc finalement, je pense que ça, c'est un des trucs. Alors, encore une fois, hein, je ne mens pas sur le truc. Moi, je suis très connexion. Mais même les introvertis, les gens qui ont besoin d'être seuls aussi, je pense que le lien humain, ils l'ont prouvé dans l'étude de Harvard qui a duré 75 ans. Là, les gens qui vivent plus longtemps sont des gens avec des connexions très fortes et bonnes, bien sûr. Enfin, tout se recoupe, quoi.
La conclusion étant que vraiment le secret du bonheur, s'il y en a un, c'est l'amour. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont construit des familles et des réseaux sociaux en renforcés. Et dernière chose, est-ce qu'il y a une citation qui te parle particulièrement?
Oh, j'en ai plein, j'ai des databases de citations parce que mon frère il reçoit un petit
Les
courrier par
utilises?
semaine. Alors il y en a une que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Diane Nayad. Alors je ne l'ai pas en tête parce qu'elle est assez longue. Alors il y en a deux, trois. Alors je vais donner les deux, trois. Alors Diane Nayad, elle a fait un TED Talk que j'adore sur la persévérance, que j'ai dans la signature de mon email et que absolument j'adore. Et donc le problème c'est que je l'ai en anglais. Mais elle dit, en gros, elle fait continuez-vous à avancer et avancer, continuez-vous à rester assis dans votre chaise confortable et être la critique, l'observateur, alors que la personne qui est courageuse, elle va dans la box ring, enfin dans le ring,
Sur le
quoi.
ring,
Elle
sur le ring.
engage et elle a les mains un peu pleines de sang et elle y va et elle se trompe et elle échoue, mais elle continue, elle continue, elle n'a pas peur. et elle vit sa vie d'une façon courageuse. Voilà, j'aime beaucoup cette
C'est une
citation.
citation ou un paragraphe?
Non, mais c'est que moi je la traduis en même temps, mais c'est une citation paragraphe. Mais bon, je vous fais la traduction live. Et il y en a une autre que j'aime beaucoup de Eric Smith de Google qui dit Say yes to things. Et après, pareil, c'est un paragraphe le truc, mais il dit Say yes et en fait il dit il faut être la personne qui dit oui aux choses, qui est cette personne positive qui va vers l'avant parce que c'est la personne qui dit oui, qui crée des choses positives dans sa vie, qui crée des connexions, qui crée de la magie. Et ça, j'aime beaucoup. Et la dernière. C'est sur le courage, et je ne sais plus qui l'a dit, mais je pense que c'est dans un bouquin qui s'appelle Roar, qui dit le courage, c'est pas en gros d'être courageux tout le temps, c'est juste d'essayer de son mieux tous les jours et peut-être de réessayer le lendemain. Et ça, j'aime beaucoup parce que le courage est un mot qui, pour moi, est un des mots les plus importants. Voilà, sur mes trois citations, sur mes 200 000 citations. Mais quand les gens ont un programme, ils reçoivent un petit email, donc ils ont une citation par semaine.
On a pris notre temps pour faire ce podcast, parce qu'il va être long, mais c'est un plaisir. On peut te retrouver comment? Je sais que tu viens de refaire ton site internet.
Oui.
C'est peut-être la meilleure façon de te contacter, non?
Ah bah oui, surtout ce que j'y ai passé comme temps à Noël. Donc le mieux, c'est ça, c'est www.cecilepompei.com. Et puis sinon, voilà, bah j'ai ma boîte, le nom légal, c'est Pompei, donc mon nom de famille comme la ville, Pompei Learning. Et c'est pompeilearning@gmail.com. Mais tout ça, c'est écrit sur le site aussi. Donc, j'ai une page Facebook aussi, Pompei Learning. Mais le mieux, avec les algorithmes de Facebook, etc., le mieux, c'est vraiment le site internet et de m'envoyer un email.
Je mettrai tout ça dans l'article. On peut retrouver ce podcast sur SoundCloud et iTunes. J'ai une baguette magique et on va finir avec ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec ma baguette magique? Je peux transformer tes rêves en réalité. Qu'est-ce qu'on peut...
Ben, ce que je souhaite aux gens, d'oser à la hauteur de ce que je veux. Je pense que c'est ça le plus important. Mais après,
j'ai hâte de voir ce que tu vas oser, parce que c'est vrai que tu as un profil très, très international. Donc, je pense qu'il y a plein d'influences en toi. Tu as pris des influences très positives du monde anglo-saxon, j'ai l'impression.
Du monde en général, hein, tu sais, ça prend
oui,
juste...
Oui, du monde en
voyage
général,
mais... Tu as 19 ans, tu te dis, bon... Déjà, le monde ne se réduit plus à la petite France et il faut secouer un peu les fesses. Forcément, ça te secoue.
Bah, en tout cas, merci beaucoup. Puis je te souhaite beaucoup de réussite pour le futur.
Merci à toi aussi. C'était vraiment un plaisir. Ravie qu'on ait pu discuter toutes les deux de ce sujet.
Bon, je regarde mon agenda et je crois que c'est inévitable. Il va falloir qu'on se retrouve dès la semaine prochaine. Ce podcast, normalement, devait être publié toutes les deux semaines, mais voilà, la gourmandise, que voulez-vous? Donc je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve dès mercredi prochain.